La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où les grands de ce monde et les défenseurs de l'environnement se penchent sur le sort de la planète à Glasgow, nous allons tendre nos micros vers le peuple de Sarayaku, en Équateur, où nous rejoindrons dans un instant Sabine Boucha, ingénieur agronome originaire de nos forêts d'Ardennes. Depuis 30 ans, Sabine vit avec les peuples indigènes des bassins sacrés d'Amazonie. Elle a épousé le chef indien, José Gualinga, et est devenue la première dame de Sarayaku. Sarayaku, un peuple qui se bat pour la défense de la forêt menacée par les compagnies pétrolières, entre autres. Les éco-résistants de Sarayaku refusent de vendre leurs terres et veulent sauvegarder leurs trésors naturels en cultivant et en protégeant les écosystèmes. C'est un combat qu'ils mènent depuis des années, là-bas en Équateur. Alors, une petite délégation est aussi présente cette semaine à la COP26. Pour faire entendre leur voix et leurs droits. Ils étaient également le 10 octobre à la marche pour le climat dans les rues de Bruxelles. Anne Pollard, bonjour.
Bonjour.
C'est là que vous les avez rencontrés.
Tout à fait, elles étaient vraiment en tête de cortège. Et parmi elles, il y avait Maricella que j'ai rencontrée et qui nous dira un mot sur la réalité qu'elle vit au sein de la forêt amazonienne.
Ce sera dans une petite demi-heure dans cette émission Les Belges du bout du monde. Et on félicite évidemment ces femmes qui viennent de remporter le prix Équateur 2021 du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, un prix qui récompense des solutions autochtones et novatrices pour les populations et la planète. Sabine Boucha, elle, de son côté, a décroché en 2019 le trophée des Belges du bout du monde. Et à cette occasion, j'ai eu le bonheur d'aller la retrouver au cœur de l'Amazonie. Un super road trip radiophonique que nous allons revivre ce matin sur la première, avant d'en découvrir les images cet après-midi, 14h10 sur la Une.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Hay bien una radio televisión belgas, sabinata paranguna belgas en el fin del mundo. Nisha paita filmación dranguna, meche fin del mundo y causa conato.
Adrien Jovenot.
Buenos dias, notre périple commence sur la cordillère des Andes, aux abords de Quito. Passionnée d'histoire et de géographie, Sabine nous fixe rendez-vous à la mitad del mundo.
Bonjour, bonjour Adrien, bonjour à toute l'équipe. Ben voilà, on est ici à la mitad del mundo, au centre, au milieu de la Terre, au milieu du monde.
Nous avons le souffle un peu court, parce que d'abord nous marchons. Et puis, nous sommes en altitude.
Oui, oui, on est à près de 3000 mètres ici. Et en plus, quand tu viens de l'Amazonie, directement ici, sur la mitad del mundo, c'est vrai que c'est dur, quoi.
On peut rappeler, Sabine, que l'Équateur, c'est trois régions, on peut presque dire trois pays.
Oui, oui, c'est trois grandes régions. Tu as la cordillère des Andes, donc toute cette partie où on est ici pour le moment, toute l'Amazonie et toute la côte. C'est trois mondes différents, c'est trois cultures différentes, des langues tout à fait différentes.
Alors c'est très symbolique, commencer cette émission Les Belges du bout du monde, au milieu du monde.
Eh oui, ici sur l'Équateur, donc le nom est resté au pays parce qu'il paraîtrait qu'à cette époque-là, donc en 1700 et quelques, il n'y avait que Quito comme ville sur la ligne de l'Équateur. J'ai toujours beaucoup apprécié, c'est l'histoire de toute l'expédition de la Condamine. Ils ont eu plein de péripéties, ils étaient un groupe d'une dizaine de personnes et chacun a eu son histoire. Et il y en a un dans l'histoire qui est reparti en France, donc par la Guyane, en passant par le Bobonassa, qui est le fleuve qui passe à Sarayaku. Et sa femme est passée là-bas 20 ans après. Donc pour ça, j'adore cette histoire et puis je la raconte toujours à Sarayaku. Et on a plusieurs fois eu des visites de personnes d'Angleterre, de France et d'Allemagne qui refaisaient le voyage de la Condamine, de Godin et de sa femme.
Et trois siècles après cette aventurière, nous suivons la nôtre, Sabine Boucha. Pour s'approcher de son camp de base, Sarayaku, il faut d'abord tracer vers l'est sur la route des volcans entre le Tungurahua et le Cotopaxi avec de légendaires neiges éternelles accrochées à leur sommet. Notre route passe par Baños. Sabine nous retrace là-bas ce road trip volcanique.
On a descendu, on était sur Quito à 3000, 2500-3000 à la mitad del mundo. Et puis on est remonté presque à 3300 dans toute la partie haute de la cordillère. Et puis ici on redescend de nouveau. Donc c'est vraiment, on fait toute la cordillère pour arriver en Amazonie. Ici c'est la porte de l'Amazonie, on est à Baños.
Voilà, c'est vraiment une zone frontière entre les Andes et l'Amazonie équatorienne. C'est une petite ville entourée de montagnes et d'un volcan terrible.
Ouais. On est au pied du Tungurahua, qui est toujours actif et qui de temps en temps jette sa lave et ses cendres sur la ville de Baños, qui a été déjà évacuée plusieurs fois, mais les gens de Baños ne veulent pas partir. J'espère qu'il n'arrivera jamais rien aux personnes ici, mais c'est ce qui fait l'attraction de Baños, c'est d'aller se balader sur le Tungurahua.
Tungurahua, ça veut dire en quichua gorge brûlante.
Voilà.
Et il se réveille souvent ?
Depuis que je suis ici, sur les 30 ans, il s'est réveillé 3 fois. Il est actif, on peut le voir quand le ciel est découvert, on voit la lave rouge depuis la route, quoi.
Alors on entend en dessous de nous la rivière avec une force incroyable, les cascades qui se jettent dans cette rivière, des ponts suspendus, je vois des bases de base jump aussi, on peut sauter ici, faire du saut élastique, aller toucher quasiment l'eau et puis remonter, c'est très très impressionnant.
Baños est connu justement sur ce côté touristique parce qu'on s'approche de la nature et puis c'est une nature très forte encore. On est au pied des cordillères, donc les rivières ont une force incroyable. Et c'est le Pastaza qui va sur toute la partie de l'Amazonie et qu'on va suivre toute la route jusqu'à Puyo.
Puyo, ça ce sera l'entrée dans l'Amazonie. C'est toujours tout droit, on continue à descendre.
Puyo, c'est à 450 mètres toujours au-dessus du niveau de la mer. Et c'est une ville, moi je dis c'est toujours un grand village. Quoi. C'est vraiment la dernière ville après vraiment l'entrée dans l'Amazonie pour la province de Pastaza. Donc c'est la capitale de la province de Pastaza.
Puyo, c'est donc la porte de l'Orient et l'Amazonie. Le ciel est souvent plombé et Puyo porte bien son nom.
Puyo, ça veut dire nuage. En fait, comme on est à la fin de la cordillère des Andes, tous les nuages s'accumulent ici. Et le matin, souvent, tu as plein de brouillard. Et, bon, évidemment, maintenant, avec la ville, tout ce qui a été construit autour, on voit moins les nuages. Mais normalement, c'est de là que vient le nom Puyo. Normalement, c'est Puyo.
Ville qui détient le record de pluviométrie en Équateur avec 6 mètres d'eau par an. Mais aujourd'hui, il ne pleut pas.
Il ne pleut pas. Il fait vent, il fait impeccable.
Alors, on va entrer dans votre bureau et vous allez nous présenter vos collègues. Première porte ici. Buenos días.
Buenos días. Bienvenidos al Ecuador y bienvenidos también a Sarayacu. Que disfruten. Que conozcan a la gente, a la familia en el pueblo Sarayacu.
Donc, il vous dit bienvenue à Sarayacu. Quand vous passez par là, saluez la famille pour lui.
Gracias, Sarayacu. Merci beaucoup. On va aller dans le petit bureau juste à côté. Et ça, c'est le vôtre, avec sur le mur des fresques magnifiques, très colorées. Qui a dessiné ces fresques, Sabine ?
Ici, on a le nom de Sarayacu, qui a été peint par ma fille Samaï, avec beaucoup de couleurs. Donc, c'est le caractère un peu de Samaï, très gai et très, très vivante. Et ici, l'autre mur a été peint par mon fils Wiyo. C'est le Kausaksacha, la forêt vivante. C'est le projet qu'on avait à cette époque-là et qu'on continue évidemment à poursuivre avec Sarayacu pour protéger la forêt de Sarayacu.
Il y a aussi une carte d'un voyage d'exploration par un missionnaire chez les tribus sauvages de l'Équateur. Alors, on voit le fleuve Bobonadza et le long de ce fleuve, une petite croix religieuse. Sarayacu, quoi. Il y avait une mission là, une église ?
Bon, d'après les livres qu'on a pu retrouver, qu'on a lus, ça c'est un livre que j'ai retrouvé à la mission de Sarayacu. C'est un missionnaire, donc dans les années 1780, quelque chose comme ça, qui redescend donc, le fond de Bobonadza. Donc lui vient en marchant depuis Baños. C'est vraiment, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de route jusqu'à Baños. Et donc il redescend, et il trouve, donc il atterrit, il passe par Sarayacu, il va aller jusqu'à Montalvo. Et c'est un livre très intéressant à lire parce que c'est très fort, parce qu'il parle des cultures indiennes, mais bon, voilà, ce sont des tribus sauvages. Donc il faut vous imaginer ce qu'il peut raconter dans ce livre. C'est très intéressant. Et j'ai repris la carte et je trouvais que c'était assez anecdotique d'avoir cette carte parce que nous, on retravaille toutes les cartes sur le territoire de Sarayacu. Donc c'est une des premières qu'on a retrouvées, des missionnaires qui passaient par là. Quoi.
Et notre voyage avec les Belges du bout du monde en Amazonie continue en musique maintenant avec Christine and the Queens et cette superbe reprise de la chanson d'Yves Simon.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Amazoniaque, c'était Christine and the Queens dans cette émission Les Belges du bout du monde. C'est vrai que les nuits d'insomnie en Amazonie sont particulièrement riches. Sous la paillasse coiffée d'une moustiquaire entre les tambours de la fête dans le village et puis tous les sons de la forêt, le sommeil est agité. Il y a les coassement des couas, c'est grenouilles, des tulumba c'est crapaud en quichua, les ululements des bouloukoukou, les hiboux, les cris des singes paresseux, les chants des djulio, les cigales, puis ceux des wadzin, les oiseaux auxquels répondent les coqs de la communauté. On comprend là-bas le concept de forêt vivante. Alors avant d'y plonger, il y a encore une épreuve. Et non des moindres, c'est le petit coucou dans lequel il faut grimper pour une demi-heure de traversée entre Puyo et Sarayaku dans les bourrasques au-dessus de la canopée.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
L'aventure continue avec les Belges du bout du monde, toujours en Équateur avec Sabine Boucha. Alors Sabine, changement de moyen de locomotion et celui-ci n'est pas votre préféré.
Non, il faut rentrer en avion à Sarayaku, quoi. C'est terrible. Au départ, quand je rentrais, ça allait, mais de plus en plus, j'ai de plus en plus peur, quoi. Mais bon, pas de problème. Il y a toute la sécurité, le pilote est très bon, et les avions aussi, quoi. C'est une crainte personnelle, c'est tout. Hein.
Et voilà, trouillomètre à fond les ballons. Nous sommes dans ce petit avion qui fait les courses vers la forêt amazonienne. On rappelle qu'il n'y a pas de route pour accéder à Sarayaku. C'est le long du fleuve Bobonanza. On ne sait pas toujours y aller en pirogue, ça dépend un peu de la météo. Ici, on a opté pour cet avion. Et on va atterrir sur une piste en herbe, carrément au milieu du village.
Oui, une piste. Il y a une petite partie où il y a un peu du macadam, mais le reste, c'est toujours des herbes, de la terre. Et c'est en plein milieu, c'est une partie du village, quoi. Donc normalement, à l'arrivée, déjà, les habitants de Sarayaku sont là pour le recevoir. Il n'y a pas d'aéroport, vraiment. C'est une piste de brousse, quoi. C'est vraiment le grand saut vers l'Amazonie, parce que c'est la dernière colline. Et puis alors, on descend. Il y a au moins 300-400 mètres de descente. Et on le sent avec l'avion aussi, quoi. Et alors là, on arrive dans le plateau de l'Amazonie.
Un plateau sur lequel nous atterrissons. Attention, accrochez-vous, l'aérodrome de Sarayaku. C'est une petite piste chaotique et ce jour-là, il y avait de la pluie, du vent et du tonnerre.
Bienvenue à Sarayaku, on est arrivé tout juste, il y a le tonnerre qui sonne, l'avion qui repart avant la pluie, mais voilà, vous êtes arrivé, on est sain et sauf à Sarayaku, bienvenue.
Avec un bel arc-en-ciel pendant le vol, merci beaucoup Sabine, c'était absolument magnifique, il pleuvait sur la forêt et puis un petit peu de lumière de paravent, ça nous a fait un arc de bienvenue incroyable, et puis cet orage qui éclate au moment où on pose le pied sur le sol, c'est incroyable. Vous orchestrez souvent comme ça des mises en scène météo pour impressionner les visiteurs?
Je crois que ça c'est le Kausaksacha, c'est la forêt vivante et c'est la bienvenue de la forêt, c'est la nature qui vous dit bonjour et qui vous accueille ici. Alors elle fait toute sa panoplie de toutes ses possibilités, le vent, la pluie, le tonnerre, et puis bientôt on aura le soleil, c'est le moment.
Elle fait très très fort, et ça nous amène dans le vif du sujet, puisque vous avez créé ici une école avec le savoir de la forêt.
Exactement, c'est une école qui est basée sur toutes les connaissances de la forêt, les enfants en relation avec la forêt, et toute la vie ici, la vie, Sarayaku n'existerait pas s'il n'y avait pas la forêt. Quoi.
Vu d'avion, c'est tout petit, c'est combien d'habitants?
Environ 1400 habitants, donc si, il y a pas mal de personnes ici, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Voir, c'est très large, c'est 135 000 hectares, donc il y a de quoi marcher à Sarayaku.
Effectivement, Sarayaku est au cœur d'un territoire de 135 000 hectares sur lesquels sont implantés 7 villages entourés de 4 collines. Je vous propose une petite marche d'approche en forêt sur les traces de Sabine.
Ici, c'est une waba. Ça commence l'époque des wabas. En quichua, c'est pakaï. Et alors, on mange la chair et le noyau. Tu le jettes ou tu le gardes pour semer parce que de là repart la plante. Mais c'est un énorme arbre. Ce sont des grandes fèves qui pendent comme ça et que les enfants récoltent. Et ça commence à cette époque-ci, donc
vers le mois de décembre, on a les pacayes. Et c'est super parfumé et frais. Quand tu te balades en forêt, c'est super bon à manger. Quoi.
La forêt, en fait, c'est votre garde-manger, c'est votre pharmacie, c'est un peu tout.
Tu trouves tout. Tu fais les pirogues dans un arbre. Donc, maintenant, on a des pirogues en fibre de verre, mais normalement, la pirogue vient d'un arbre, c'est le cèdre. Un énorme arbre. Donc, de l'arbre tout entier, il sculpte la pirogue. Et puis alors, tu as toutes les plantes médicinales, évidemment, toute la nourriture, les bananes, le manioc, tous les fruits qu'on peut trouver, bon, tous ces fruits de saison, quoi. Évidemment, bon, ben, c'est aussi de la récréation pour les enfants, c'est l'endroit de récréation pour les enfants, et d'apprentissage aussi, quoi. Donc c'est tout, toute la forêt, tout pour les gens à Sarayaku.
Terrain d'aventure et école de savoir aussi.
Également, ouais. Oui, qu'on reproduit donc dans l'école, justement, toutes ces connaissances de la forêt. Que normalement, dans la tradition quichua, donc c'était les parents, les papas aux garçons, les mamans aux petites filles qui apprenaient. Donc ils partaient en forêt, ou ils partaient à la chakra, ou même autour de la maison, il y a des champs ou des jardins. Et nous, on reproduit cette éducation dans les écoles. Parce qu'après le moment, les écoles sont arrivées, c'était des écoles qui étaient plus orientées sur une éducation hispano, comme on dit ici, donc qui abandonnaient un peu la culture des peuples quichua. Donc nous, on reprend cette culture, on demande aux anciens, aux papas, aux mamans qui viennent à l'école, et on reconstruit. Bon, elle est toujours là, donc on la préserve, plus que de la reconstruire, l'éducation quichua, en relation avec la forêt vivante.
L'école que vous avez créée ici à Sarayaku, nous sommes au bord de la rivière, la Bobonanza. Vous êtes arrivée ici il y a une vingtaine d'années. Dans quelles circonstances, Sabine ?
J'étais sur les listes d'attente de la GCD à cette époque-là. Donc
la coopération au développement.
La coopération, oui. Et puis je me suis dit, non, j'ai resté ici des années, je partirai jamais. Et puis alors, si je pars maintenant, je partirai plus. Quoi.
Partir de Belgique ?
De Belgique, ouais. Oui, oui. Et donc, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie, j'ai fait plusieurs pays, puis j'ai fait aussi le plus proche ici, dans la Colombie, le Pérou, puis j'ai atterri en Équateur, où j'étais prête à retourner en Belgique. Je me suis dit, bon, il n'y a plus rien, je vais rentrer. Puis j'ai alors des amis qui avaient un projet ici de pisciculture sur la ville de Puyo. Ils m'ont dit, écoute, on connaît un village, tu peux rentrer là-bas, c'est une communauté indienne, c'est un peuple vraiment qui résiste, qui travaille, qui est bien organisé, va voir là-bas, on ne sait jamais, tu pourrais peut-être travailler là-bas. Je suis rentrée, puis j'y suis toujours, quoi.
Bon, vous avez épousé celui qui allait devenir le chef du village. Vous avez été la première dame de Sarayaku. C'est impressionnant comme titre, quand même.
Oui, bon, à cette époque-là, Rossé, bon, il a toujours travaillé, Rossé, dans toutes les organisations des peuples autochtones. Donc, à cette époque-là, il était dans une organisation au niveau de la province. Et puis, donc, on est rentré un moment en Belgique, on est revenu ici, et petit à petit, bon, moi, je me suis vraiment engagée ici, donc, à Sarayaku, dans toute la cause de Sarayaku. Et toute une époque, Rossé, pendant 3 ans, a été président de la communauté. Donc là, j'ai encore appris encore plus sur le travail avec Sarayaku. Et non, de toute manière, Rossé, en étant président ou pas, c'est un leader de Sarayaku. Donc, on est toujours dans la lutte, dans la résistance. Et nos enfants continuent le même chemin. Donc, Samaï est maintenant dirigeante d'éducation. Wiyo travaille dans un projet de communication. Et ils sont bien décidés à continuer à travailler pour la cause de Sarayaku.
En faisant des enfants ici, vous avez épousé aussi la cause de tout un peuple ?
Oui, oui, oui. Au départ, c'était dur. Les 10 premières années, je crois qu'il a fallu vraiment que je comprenne ce que c'était. Mais une fois que j'ai eu mes enfants et que j'ai su de ce que c'était d'avoir du sang indien dans les veines, c'est là que aussi ça, il y a eu un déclic. Moi, maintenant, je travaille pour le village, pour ma famille, pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Maintenant, parce que j'ai aussi mes petits-enfants, j'ai 2 petits-enfants. Et... Non, c'est vraiment une cause qui fait partie de notre vie et qui est dans la famille. Quoi.
Vivre au cœur de la nature en exploitant intelligemment toutes ses ressources, c'est une des devises de Sabine et du peuple de Sarayaku. Comme dans leur maison, des cabanes à la toiture en feuilles de palmier, je vous propose de visiter une de ces cabanes en construction. Nous sommes guidés en quichua par Isidoro, l'entrepreneur du village.
Kimsa chunga wataraigo 30 años y rukuyao shanya sakinche erengsha nyukanchi wagonata.
Ah oui. Donc c'est une maison qui durera plus ou moins 30 ans. C'est tout un savoir qu'il a appris de ses parents, qu'il va transmettre à ses enfants. Et bon, lui, bon, qu'il a déjà un certain âge, peut-être il ne sera plus là après la maison, mais la maison reste ici pour remontrer le savoir de ses connaissances, le savoir qu'il a appris de son père, de son grand-père. Et il espère que ses enfants continueront la tradition.
En tout cas, ça fonctionne parce qu'on a logé avec toute l'équipe dans une maison similaire. On est en Amazonie, quand même, il fait très très chaud normalement. Et il n'y a pas de clim, forcément, il n'y a pas d'électricité, non. Mais on n'a pas eu chaud du tout. On a vraiment l'impression d'être au frais. Oui. Ça fonctionne bien. C'est aéré aussi, il y a l'air qui circule à différents étages de la maison.
Oui, oui, c'est vraiment très spécial. Bon, ils ont certains projets qui viennent de la ville et celle de mettre des toits en tôle. C'est horrible, quoi. Il fait froid. Quand il fait froid, c'est trop froid. Quand il fait chaud, c'est trop chaud. Quand il pleut, il y a trop de bruit. Tandis que ces feuilles, c'est vraiment adapté. Et en plus, le grand secret aussi, c'est de bien faire du feu, donc à l'intérieur de la maison, fumer le toit. Ça dure des années. Et alors, on voit la fumée passe toujours à travers le toit, mais la pluie ne passe jamais, quoi.
Belhikai, kaisaminik, pinyokanchiancho, équipe de 12 personnes aunchi.
On est une bonne équipe, on est une douzaine de personnes à travailler pour le moment. Et si vous voulez, sans problème, on va en Belgique, on reconstruit une maison comme ça en Belgique pour vous, il n'y a pas de problème.
Gracias. Buenas tardes.
Isidro qui va venir faire des affaires et des belles maisons chez nous. Il y a du boulot et ça résiste à la pluie, ça peut servir en Belgique. Allez, après la pause, nous partirons ensemble pour une dégustation de Wayusa. Nous irons dans les chakras, tirer le manioc, préparer la chicha avant de nous baigner dans la rivière Bobonadza. A tout de suite.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Bienvenue en Amazonie, si vous nous rejoignez dans la plus grande forêt du monde. C'est aussi une formidable pharmacie naturelle. Sa flore contient une foule de substances curatives connues des Indiens depuis la nuit des temps. Cette forêt, c'est également un garde-manger. Le peuple de Sarayaku se nourrit des produits de la chasse, de la pêche, de la cueillette et des récoltes des champs aménagés en lisière. Les chakras, comme on dit en quichua, sont généralement cultivés en famille. Nous y suivons Sabine, notre Belge du bout du monde, Samai, sa fille et le mari de Samai, Umberto.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
On est donc ici dans le champ de Samai, ma fille. C'est Samai qui s'est chargé d'ouvrir tout cet espace ici en forêt avec son époux Umberto. Et on va récolter le manioc dans ce champ-ci.
Alors Samai, bonjour.
Bonjour.
Vous avez grandi du côté de Verviers et ici en Amazonie, vous avez la double culture.
Oui, quand j'étais petite, j'ai grandi à Verviers et à Teux. Et quand j'avais 4 ans, on est revenu ici à Sarayaku et depuis là, on est là. Je suis mariée ici, j'ai ma famille.
On entend derrière vous votre mari qui travaille là.
Oui. On est venu prendre un changa de manioc. Un changa, c'est où nous on met le manioc pour pouvoir le transporter et l'apporter.
Une espèce de jarre en osier.
Hein. Oui. Et après, on fera la chicha à la maison. Comme ça, on aura notre boisson de jour à jour.
Alors, pour arriver dans votre chakra, votre champ, on a dû emprunter une pirogue, une demi-heure pour débarquer ici. Sur ce champ, on voit le manioc, vous dites la yucca.
Oui.
Et puis des bananes aussi, des bananiers?
Oui, on a des bananes, des papayas, je ne sais pas comment on dit en français.
Papaye, oui.
On avait du maïs, mais ça, on a déjà récolté. On a des fois aussi la canne à sucre, des tomates aussi, des tomates d'ici, de la pomme de terre. On a deux sortes de pommes de terre. On a une pomme de terre qui a plein de cheveux et l'autre pomme de terre, que c'est une grosse pomme de terre de l'Amazonie.
C'est pas pour faire des frites?
On n'a pas essayé jusqu'à maintenant. Une bonne idée, on pourrait l'essayer.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar.
Merci de nous suivre avec Manu Chao en Amazonie. Ici, la forêt est comme un souffle qui donne la vie. Il n'y a pas seulement les bois, les fruits, les plantes qu'on va y chercher, mais aussi la force de notre esprit, de nos rêves et de nos pensées. Défendre cette forêt, et célébrer la Pachamama, la déesse de la terre. C'est le quotidien de notre Belge du bout du monde, Sabine Boucha, et des 1200 résistants de Sarayaku. Un combat qui passe aussi par l'éducation. Sabine m'emmène à l'école des savoirs de la forêt vivante, un lieu de transmission pour que l'héritage des anciens ne parte pas en fumée. 25 ans après l'avoir créée, Sabine coordonne toujours cette petite école et si elle mène aujourd'hui les campagnes pour assurer son financement, elle aime toujours retourner sur le terrain.
Bon, c'est vrai qu'après quelques jours qu'on vient de passer à Sarayaku, je crois que c'est très important d'enfin venir à l'école du savoir ancestral de la forêt vivante. Donc c'est ici le Tayagwasi, où il y a plus ou moins 37-40 élèves et deux professeurs. Les enfants reçoivent les cours de mathématiques, d'espagnol, de quichua. Mais surtout, tout est renforcé au niveau de la connaissance et de cette relation en harmonie avec la forêt. Donc ici, les petites filles, pour le moment, sont en train de travailler la terre glaise, pour en faire de très jolies poteries qu'on appelle les mokawa, ce qu'on utilise pour boire la chicha, la bière de manioc.
Alors c'est pour ce projet d'école vivante des savoirs ancestraux que vous avez obtenu le trophée des Belges du bout du monde en catégorie solidarité. C'était important pour vous ce trophée, cette reconnaissance ?
En fait c'est un projet qui a commencé en 1994. Bon, depuis, moi, j'ai fait un long chemin. Je travaille beaucoup plus avec les adultes et Sarayaku. Mais mon cœur est ici dans cette école. Je veux dire, mes enfants ont étudié ici. Maintenant, j'ai ma petite fille qui est ici aussi en train d'étudier. Et c'est une lutte permanente pour pouvoir continuer à ce que les enfants puissent recevoir l'éducation en quichua, cette éducation qu'ils ont besoin pour leur auto-estime et puis pour la revendication de leur lutte, la résistance de leur village et la protection de la forêt. Mais c'est vraiment, enfin, je veux dire, Tayagwasi, c'est toute ma jeunesse ici. Je travaille un peu avec les adultes, mais je reviens toujours à l'école une fois par semaine. Et puis bon, je cherche des projets pour eux. Enfin, on essaie vraiment que cette école continue parce que c'est important pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tous les enfants et pour tout le peuple de Sarayaku.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors le peuple de Sarayaku a tout l'avenir devant lui. Il se réveille en pleine nuit. Je vous propose de rejoindre le centre de santé Sasiwasi où nous allons participer à la Wayusa. C'est une cérémonie traditionnelle du thé. Ici, on se raconte ses rêves au réveil. Un peu comme chez nous, on se raconte des histoires avant d'aller dormir. Ici, les rêves sont prémonitoires. Les interpréter avant le lever du soleil permet de mieux appréhender la journée.
Bonjour, on est à Sasiwasi, le centre de santé traditionnel de Sarayaku. Il est 4h du matin et on boit le thé traditionnel, la Wayusa. Bonjour Adrien.
Bonjour Sabine. Et c'est l'occasion de nous présenter votre mari. On en a déjà beaucoup parlé. C'est grâce à lui que vous êtes ici. C'est José. José, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien. Bien, bien. J'accompagne à Sabine.
Merci pour la marche de nuit. Moi, ça m'a rappelé mes années scouts, partir la nuit, marcher avec un sac à dos, arriver ici dans cette petite cabane, s'asseoir en rond autour d'un feu sur lequel bout une marmite avec du thé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce thé, José ?
Lei, Wayusa et Chiricaspi. Ce sont des plantes médicinales.
Alors, il y a une tradition, on prend la première gorgée et puis on la recrache.
Oui, on la recrache. Et normalement aussi, on doit vomir.
La vomir.
Vomir.
Oui.
Oui.
Remettre, ouais.
Boire et après vomir, et nettoyer la.
Purifier le corps.
Oui, purifier le corps et aussi l'estomac.
Si on prend ce thé en pleine nuit, avant le lever du jour, Sabine, c'est une raison particulière ?
On profite des 2-3 heures fraîches de la matinée pour pouvoir d'abord se raconter les rêves qu'on a eus pendant la nuit, parce qu'ici, ce sont les rêves prémonitoires. Donc, les gens arrivent à interpréter les rêves. Et puis, on fait le planning de la journée. On voit un peu ensemble ce qu'on va faire, si on va à la pêche, si on va à la chasse, si on va travailler au bureau, si on va dans les champs. Et normalement, donc, on boit jusqu'au lever du soleil. Et après, la Wayusa, On prend un bain qui termine donc toute cette manière de se nettoyer le matin et de prendre l'énergie de la nature en terminant donc par un bain dans le Bobonassa ou dans une rivière proche de la maison.
Les eaux ploufent dans la rivière, mais pour ce bain du matin, nous avons préféré un affluent du Bobonassa, moins pollué. Sabine nous plante le décor.
On est juste dans le fleuve Sarayakou qui se jette dans le Bobonassa. Donc Sarayakou, il y a 7 centres communautaires. Il y en a un qui s'appelle Sarayakou et cette rivière vient de Sarayakou et se jette ici dans le Bobonassa.
Elle est délicieuse. On vient de tester. Pure, fraîche, chaude, un vrai régal.
Oui, c'est, tu vois, on le voit directement, c'est une autre couleur que l'eau du Bobonassa. Le Bobonassa vient de très haut, donc quelquefois il a quand même aussi un peu de pollution puisqu'il vient des villes au-dessus de Canelos. Mais ici, Sarayakou, c'est une source qui vient de tout au-dessus et qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de village, il n'y a absolument rien. Donc c'est une eau très pure, très claire et très fraîche, évidemment.
Alors sur la pirogue, Samaï, vous peliez un fruit ou un légume, en tout cas quelque chose d'assez particulier qu'on ne connaît pas en Europe. Qu'est-ce que c'est ?
C'est du huitouc, c'est un fruit qu'on utilise pour nos cheveux et aussi pour, quand on a des fêtes, pour nous maquiller le visage. C'est un fruit qui fait une teinture un peu bleu-noir et c'est très bon pour les cheveux parce que ça te fait pousser et ça te fait noir et lisse.
Alors, petite séance de coquetterie entre la mère et la fille, Samaï, vous teint les cheveux avec ce fruit.
C'est agréable à mettre, les cheveux sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus brillants, et ils sont plus épais, et puis ils continuent à pousser. Bon, c'est vrai, bon, moi je prends de l'âge, mais c'est agréable d'avoir les cheveux dans un bon état.
Et il paraît que ce fruit a aussi des vertus magiques contre la chute des cheveux.
C'est comme un peu comme toute la médecine quichua, c'est préventif. Donc je veux dire, il faut faire ce rite et ces soins depuis tout petit.
Vous voulez dire par là que pour moi c'est trop tard?
Plus ou moins, on peut encore essayer.
Non, parce que je voudrais bien les étanter. Oui, franchement, c'est impressionnant. Ça noircit les cheveux et ça empêche les cheveux de tomber. D'ailleurs, j'ai vu très peu de quichua ou même d'Amérindiens en général chauves.
Oui, oui, bah, je crois que c'est déjà aussi dans la race, je veux dire. Les gens, ils sont très peu, les hommes ont très peu de barbe ou de moustache, mais ils ont beaucoup, beaucoup de cheveux. Et je crois que dans le village de Sarayakou, il y a 2 personnes qui sont chauves. C'est vraiment... C'est
2 sur 1200 habitants.
Oui, c'est ça.
Chez nous, c'est beaucoup plus. On est une équipe de 4, il y a 3 chauves. Alors, le cheveu, ici, c'est un symbole de force et de beauté, de jeunesse.
Oui, oui, c'est très, très important. Je veux dire, chez les femmes, ça fait partie de la beauté de la femme. Je veux dire, quand une belle femme, elle aura des longs cheveux noirs, très brillants. Et chez l'homme aussi, ça fait partie de sa personnalité. L'homme a des longs cheveux et c'est sa beauté aussi. Et c'est surtout la force aussi. On ne dirait pas que c'est comme Samson et Dalila quand on lui coupe les cheveux. Mais il y a une signification. Enfin, je veux dire, si on coupe les cheveux en Indien, c'est... On touche à sa dignité, et c'est une offense. Si on veut faire du mal à un Indien, on lui coupe les cheveux, c'est très très grave. Quoi. C'est très très important les cheveux dans les peuples autochtones d'Amazonie.
Ouais, j'ai compris Sabine, je ne serai jamais chef indien avec mon crâne dégarni, aucune crédibilité possible. Allez, voici Sting en consolation pour tous les chauves du royaume. Fragile.
Les Belges du bout du monde sur la première.
C'était Sting, évidemment, au temps où il accompagnait le chef indien Raoni en tournée de sensibilisation amazonienne. 30 ans plus tard, ce sont les femmes de Sarayakou que vous avez croisées dans les rues de Bruxelles. Voilà.
Tout à fait, elles sont elles aussi en tournée en Belgique, mais en Europe de manière plus générale. Et elles étaient à Bruxelles il y a quelques semaines en tête de cortège de la marche climat. Parmi elles, il y avait Maricela que j'ai rencontrée et qui m'a parlé de sa réalité au cœur de la forêt amazonienne.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maricela Walinga. Vengo desde el pueblo originario quichua de Sarayakou.
Je m'appelle Maricela Gualinga Santi. Je viens d'une ville d'origine quechua, Sarayakou en Équateur, et je suis actuellement la vice-présidente de cette communauté de Sarayakou.
De suma importancia porque
je suis ici en Europe accompagnée d'autres femmes de ma communauté. Nous faisons actuellement une tournée avec notre groupe. C'est d'une grande importance pour nous. Nous vivons dans la forêt, la jungle, et nous voulons partager notre point de vue. Nous devons défendre l'environnement. Pour l'Amazonie équatorienne, d'où nous venons, mais aussi pour le monde entier, il faut sensibiliser tout le monde.
y pido tomar conciencia a todas las personas.
Je demande à chacun de prendre conscience de ceci. Il ne faut pas détruire la forêt qui nous reste. La lutte contre le réchauffement climatique doit se faire aujourd'hui pour sauver le monde, l'environnement dans lequel nos enfants vivront. Il est temps d'écouter, de protéger les peuples autochtones.
Nosotros como pueblos indígenas.
Nous sommes nés en Amazonie. Nous avons vu là-bas la forêt changer, évoluer. Notre monde, nos habitudes, notre quotidien, là où nous mangeons, la terre qui nous nourrit, là où nous avons construit nos maisons, bâti nos foyers, où nous avons vécu toute notre vie. Mes parents, mes oncles, mes arrière-arrière-grands-parents, toute notre culture en dépend.
Mis tatarabuelos han venido de ahí. Nuestra cultura está ahí. Y si no defendemos la selva,
si nous ne défendons pas notre forêt, nous risquons de tout perdre. Nous sommes en danger, et le monde entier aussi d'ailleurs.
Todo eso se perderá y el mundo entero estamos en peligro.
Très fort ce témoignage, merci Anne Pollard. Il nous reste un peu moins de 10 minutes à passer en Amazonie avec Sabine Boucha et sa petite famille à Sarayaku, après son mari, José Hualinga, et leur fille Samaï. Nous allons maintenant faire la connaissance de leur fils Wiyo, né en Équateur il y a 23 ans. Il est passé par Liège, mais il vit à Sarayaku. Et cette semaine, il défend avec Marichella la cause de leur peuple à la COP26. Mais c'est dans sa hutte, au bord de la rivière Bobonanza, que je l'ai rencontré.
Les Belges du bout du monde sur la première, Adrien Jouvenot.
Tu as goûté à la vie du côté de Liège, c'est très différent. La vie en ville et puis la vie en forêt. Vers laquelle ton cœur balance? Qu'est-ce que tu préfères, Wiyo?
Oui, j'ai déjà été à Liège et tout ça et j'ai fait ma vie ici. J'ai ma famille ici, je suis habitué ici plus.
José Galinga a été chef du village. Tu envisages de prendre peut-être un jour la succession de ton papa et de devenir, toi, plus tard, président aussi, ou responsable des barrios, des quartiers?
De plus petit, moi, j'ai pensé que je voulais étudier tout ça et toujours venir aider mon peuple. Et jusqu'à maintenant, j'ai ça. Et chaque fois que je travaille et tout ça, c'est pour mon peuple. C'est pas pour des intérêts et tout ça. J'aime vivre ici, j'aime aider mon peuple, j'aime mes amis, j'aime les gens. Et toujours, si je vais quelque part et je change ma vie, mais je vais revenir toujours ici.
Fidèle à Sarayaku.
Ouais, très très fidèle. Toujours être proche à la communauté et toujours être ici pour aider. C'est ça, mon projet tout ça.
Wiyo en plein travail de confection des tambours pour célébrer la Minga, cette journée de travaux collectifs au cœur de la communauté quichua. Ça se termine toujours par une dégustation de chicha. Alors la chicha, elle est préparée avec le manioc, mijoté à feu doux, tabassé, malaxé et recraché par les femmes. On l'appelle aussi le baiser amazonien. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
C'est la boisson que tous les gens de Sarayaku boivent. C'est comme le café chez nous. Enfin, il y a toujours de la chicha à la maison. Vous rentrez quelque part, vous vous asseyez, vous venez dire bonjour, vous venez discuter avec la personne, vous venez lui demander quelque chose. On vous offrira directement un bol de chicha. Donc il y a la chicha, il y a la masse de chicha qui se garde et qui peut se boire comme du yaourt, comme du lait de manioc, qui n'est pas très fort, qui est bon, qui est un peu sucré. Mais après une semaine, si on la laisse dans la jarre, et alors qu'on la laisse reposer dans la jarre et qu'on met donc l'eau sur la masse de manioc, on la laisse fermenter toute la nuit. Et le matin, la masse est remontée et tout l'alcool est décanté. Et en dessous, il y a l'alcool de manioc qu'on utilise alors pour les fêtes, pour les grandes fêtes. Et c'est très alcoolique. Enfin, c'est plus ou moins comme boire du vin. Et comme les quantités sont énormes, puisque c'est des litres et des litres qu'on en boit, c'est pas un petit verre de vin. Donc c'est d'abord parce qu'il fait très chaud et puis en plus parce que c'est la tradition, les bols sont très grands. C'est fort, quoi. Ça remplit et ça peut saouler aussi.
C'est le seul alcool qui est en vente, et c'est même pas en vente, qui est consommé à Sarayaku parce qu'il n'y a quasiment pas d'argent ici.
Oui, oui. La chicha, c'est donc la boisson traditionnelle. Elle n'est pas vendue à Sarayaku. Le jour où on vend la chicha, ce serait vraiment très grave. Donc c'est vraiment, ça fait partie de cette solidarité, réciprocité entre les familles. Donc la chicha, elle est toujours donnée, quoi.
Le fait de mastiquer le manioc aussi, surtout que c'est fait par des femmes, ça a un côté presque, érotique. Romantique.
En fait, les anciennes, ma belle-mère m'explique qu'avant, bon, ça n'existe pas le baiser qu'on le connaît chez nous. La nouvelle génération, évidemment, elles ont appris ça d'autres choses aussi, mais il n'y a aucun problème. Mais c'était justement le baiser amazonien. Donc on mastique, et cette salive qui est dans la chicha, c'est le baiser de la femme amazonienne envers son époux.
Ok, mais comme ça on a les secrets de fabrication.
Oui, c'est toujours un peu délicat d'en parler. Et puis après, vous devrez la goûter. Hein.
Mais évidemment, vous pensez bien. Et je n'y ai pas échappé. Preuve à l'appui sur lapremière.be. Allez, tout autour de Sarayaku, il y a des arbres en fleurs qui ont été plantés pour marquer le territoire de la communauté. Je vous propose de grimper sur la colline pour approcher cette frontière de vie où Antonio, le chaman, nous accueille.
Alichichi, alichamushkechi, kai Sarayaku liaktama, kasaruna sachokui kausanchi. Que vi con un cuchillo cuyonchi su espacio frontera de vida demostrativa aurunata ricuchingawa.
Nous sommes ici dans l'espace dénominé Cuchillurku, donc un espace de la frontière de vie que nous entretenons et que nous montrons donc aux personnes qui viennent nous visiter pour qu'ils comprennent plus le message de la frontière et de la résistance et de la protection de l'Amazonie.
On sent ici une harmonie, une espèce d'alliance végétale et humaine pour défendre la forêt contre ceux qui voudraient profaner son sous-sol, ceux qui voudraient créer ici des gisements de pétrole. On sent qu'il y a une cohésion.
Ici, il y a une parfaite harmonie entre l'être humain, les êtres de la forêt et tout ce qui sont les éléments de la forêt. En fait, ils ne font qu'un. On ne peut pas imaginer protéger les papillons, protéger les éléphants, protéger les jaguars, protéger un arbre, protéger une espèce qui, évidemment, doivent être protégées. Mais on doit surtout veiller à avoir l'équilibre avec tous ces éléments de la nature, donc de la terre-mère, de la forêt. Et l'être humain fait partie de cette nature. On ne peut pas s'exclure et on n'est pas non plus ni supérieur ni inférieur. Et on a besoin que ce soit un tout. L'homme fait partie de cette nature et dans ses réserves, il doit avoir l'être humain aussi. Donc ça, je crois que c'est très important. C'est la grande différence des pensées et de la philosophie des peuples amazoniens ou des peuples premiers. Savoir qu'on fait partie de cette nature et que si on lui fait mal, on se fait mal. Et si on lui fait du bien, on se fait du bien.
En sauvant et en protégeant la forêt ici, vous êtes aussi proche des jeunes qui marchent dans la rue à Bruxelles ou ailleurs dans le monde.
Oui, on a des contacts. En plus, on a des jeunes de Sarayaku qui voyagent aussi. On a qui rencontrent les jeunes qui sont en train de faire les manifestations dans le monde entier. On a beaucoup de contacts avec eux. On a l'espoir que les jeunes vont aussi défendre cette cause. On sait que c'est pas simple, c'est pas facile. On doit changer les politiques, on doit changer notre vision du développement, la base de l'économie du monde entier. Mais si les jeunes le comprennent, c'est eux les futures générations. Je crois qu'il y a un message qui passe bien pour le moment entre les peuples premiers et justement les jeunes du monde entier qui exigent qu'on soit plus sincère avec nous-mêmes et que les politiques soient plus correctes pour pouvoir justement assurer leur futur. Quoi. C'est eux qui ont le droit de demander leur futur aussi, c'est eux qui ont la parole pour le moment. Et ils sont d'accord avec, comme un accord avec les peuples autochtones.
On vous sent malgré tout optimiste.
Oui, tout à fait. Il faut être positif. En étant positif, c'est l'énergie positive qui nous donnera le positif. Si on se plaint, c'est le négatif qui vient vers nous. Quoi. Donc, il faut être positif.
Eh bien, merci pour ce beau message, pour un monde meilleur.
Oui. Il faut continuer à être positif et justement avoir de nouvelles perspectives pour permettre à continuer donc à vivre sur une planète saine.
Merci beaucoup Sabine.
De rien, merci à vous.
Avec un salut d'Imouvrini qui consacre son album Imagina au peuple de Sarayaku, comme nous l'avons fait ce matin avec les Belges du bout du monde, réalisé par Paul Michel avec la complicité d'Anne Pollard. Anne, vous avez entre les mains le journal publié par notre confrère Jacques Dauchamp. Il est jeune pour le climat. Allez, une petite citation de José Gualinga justement.
en fin de journal, il nous propose de réfléchir à ceci. Vous serez comme ces arbres pleins de fleurs et vos idées ne pourront être détruites.
Voilà, allons-y, le pouvoir des fleurs, il faut continuer à y croire. Et on est de tout cœur avec cette délégation et les Jeunes pour le Climat, évidemment, à la COP26. Si vous aussi vous rêvez d'un voyage en Amazonie, rendez-vous sur notre page Belge du bout du monde expérience ou Voyager immobile, c'est bien aussi, hein, cet après-midi à 14h10 sur la Une avec la version télé de cette émission. La semaine prochaine, nous serons dans le parc naturel du Morvan avec la namuroise Dominique Hannet, entrepreneuse à la Cabane Verte. D'ici là, restez fidèles à la première. Dans un instant, Nicolas Blanmont et son pasticho.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Podcast.